Herkman Chatrian, le vieux tailleur. J'ai connu dans ma jeunesse, à Sainte-Suzanne, un vieux tailleur nommé Mauduit. Cet homme demeurait dans la ruelle des Glaneurs, près du rempart, et nous autres, jeunes garçons, en allant à l'école chez le père Berthomé, nous faisions halte à sa fenêtre, le petit sac au dos, pour devoir travailler de son état. C'était un vieux bonhomme aux tempes chauves, les yeux gris clairs, le teint légèrement vineux, et qui, les jambes croisées, sur son établi tirant le fil, ressemblait à une grenouille dont il avait la bouche largement fendue et l'air rêveur. De temps en temps, il s'interrompait de coudre, il nous regardait, le nez et le menton en carnaval, et comme l'établi touchait à la petite fenêtre basse, étendant la main, il nous la passait dans les cheveux, en souriant. C'est moi surtout qu'il aimait à caresser, sans doute à cause de mes cheveux blonds, longs et bouclés. Alors il me disait « Toi, tu es beau comme un beau mouton. Travaille bien, Antoine, écoute ce que dit M. Berthomé. Tes parents sont de braves gens. » Il semblait attendri en disant ces choses. Puis il se remettait à travailler en silence. La petite chambre où le bonhomme croupissait ainsi depuis des années était fort sombre. Quelques vieux habits râpés, des pantalons rapiécés, des vestes graisseuses pendaient autour à leurs chevilles, et au fond, dans l'ombre, montait un petit escalier. Il me semble encore voir ce recoin du monde avec la traînée de lumière qui tombait de la croisée sur l'établi, toute fourmillante d'atomes et de poussière d'or. Quelquefois, dans l'obscur réduit, apparaissait une vieille, mais si vieille qu'on aurait dit d'une de ces chouettes déplumées que les paysans clouent sur leurs portes de grange pour écarter, par la crainte du même sort, les oiseaux de proie rôdant autour des poulaillers. C'était la vieille Jacqueline, la mère de Mauduit, qui l'entretenait de son travail. Elle n'avait qu'un bavelet et une vieille robe à grand ramage qui datait pour le moins de la République ou de Louis XVI. Elle s'asseyait sur la dernière marche de l'escalier, la tête branlante et parlant toute seule. Sa figure blanche brillait au fond de l'alcôve et ses cheveux retombaient sur ses épaules comme du lin. Mauduit, lorsqu'elle venait ainsi, la regardait d'un œil presque tendre et lui disait « Mère, rapprochez-vous de ce côté, près du soleil, vous aurez plus chaud, tenez, là, devant moi !» Et descendant de la table, il poussait un antique fauteuil à crémaillère au pied de l'établi, aidait la pauvre vieille à se lever et l'installait gravement dans son coin, disant tout bas « Êtes-vous bien comme ça ?» « Faut-il que je mette un coussin, quelque chose derrière, pour vous soutenir ?»« Non, non, Baptiste, je suis bien, » faisait-elle. Alors, tout joyeux, il remontait sur la table, croisait ses jambes et poursuivait son ouvrage, bien heureux de sentir là sa vieille mère qui se réchauffait. Il arrivait aussi quelquefois de siffler de vieux airs, mais si bas qu'on l'entendait à peine. Et dès que la vieille se mettait à prier, il se taisait pour ne pas l'interrompre, devenant plus sérieux encore. Et nous autres écoliers, au premier son de cloche, nous courions à l'école en criant « Bonjour, père Mauduit, bonjour !» Il levait alors ses yeux gris et nous regardait jusqu'à ce que nous eussions disparu dans la petite allée de M. Berthomé, puis il se remettait à coudre. L'après-midi s'écoulait, lentement, tantôt chaude, tantôt pluvieuse. À 5 heures, nous repassions, voyant toujours le vieux tailleur à la même place, qui tirait son aiguille et rêvait à je ne sais quoi. Je me rappelle aussi qu'on appelait le père Mauduit le Vendéen, et que des personnes soi-disant pieuses l'accusaient d'avoir commis des horreurs en Vendée, d'avoir tué des femmes, des enfants, etc. Mais je n'ai jamais pu le croire, car les personnes qui répandaient ces mauvais bruits étaient de vieilles pécheresses, des malheureuses, comme le répétait souvent mon père. Jean Flamel, quincaillé dans la rue des Minimes. Il se rappelait les avoir vus au temps de la République, sur le cher de la liberté, représentant la déesse raison. Il disait que ces honnêtes personnes, revenues à notre sainte religion et pleines de repentance de leurs anciens égarements, croyaient se relever en reprochant à d'autres plus de fautes et d'abominations qu'elles en avaient commises elles-mêmes. La seule chose vraie de tout cela, c'est que Maudu était parti comme volontaire en 92, qu'il avait fait les campagnes de Mayence, de Vendée, d'Italie et d'Égypte, et qu'après le coup de Brumaire, pouvant entrer dans la garde consulaire, il avait mieux aimé reprendre son état de tailleur que de servir Bonaparte. Voilà ce que disait mon père, auquel j'accorde pour la vérité, le bon sens et la justice, plus de confiance qu'à toute cette race ensemble. Ainsi se passèrent les années 1816 à 1820, époque où mes parents, voyant que je savais tout ce que M. Berthomé pouvait m'apprendre, un peu d'orthographe, un peu d'arithmétique et le catéchisme, pensèrent qu'il était temps de me faire voir le monde. Mon père, se rappelant qu'il avait un vieux camarade, Joseph Le Bigre, établi comme quincaillier depuis 25 ans rue Saint-Martin à Paris, m'envoya chez lui compléter mon instruction. Monsieur Le Bigre me reçut très bien et m'employa d'abord dans son magasin. Puis il me chargea de placement de ses marchandises, et en 1824, l'année même du couronnement de Charles X, mon père, déjà vieux, me céda son commerce. J'épousai mademoiselle Joséphine, la fille cadette de monsieur Le Bigre, et je vins m'établir pour mon propre compte à Sainte-Suzanne. Et c'est dans ce temps-là que mourut Jacqueline Mauduit, la mère du vieux tailleur de la ruelle des Glaneurs. Alors, me rappelant combien de fois dans mon enfance je m'étais accoudé sur la fenêtre de sa baraque, je crus devoir assister à son enterrement. Il pleuvait ce jour-là, il tombait de la neige fondante. La ruelle était déserte, pleine de boue. Et m'étant habillé, je me trouvais dans la petite allée de la Masure avec 5 ou 6 voisins. Thomas Audry, le couvreur et sa femme, Jean Réco, le ferblantier, le père Martin, enfin de pauvres gens, qui furent tout étonnés de me voir ainsi venir. Monsieur le vicaire Suzard, le chantre et les deux enfants de cœur, en robe blanche, assez crottée, arrivèrent en courant et l'on se rendit d'abord à l'église, puis au cimetière. Mauduit marchait près de moi, son mouchoir sur ses yeux rouges et sa moustache pleine de larmes. Il se balançait sur les hanches comme un vieux tailleur qu'il était et ne disait rien. Et quand nous arrivâmes au cimetière, en face de la fosse jaune, les bords couverts de neige fondante, après la récitation rapide du De Profundis, il se baissa, prit la pelle et jeta un peu de glaive sur le cercueil. Puis il me passa la pelle en disant « Tenez, monsieur Antoine, vous la connaissiez depuis longtemps et vous êtes venu, allez, merci !» Ce fut tout, nous revînmes en silence. Depuis ce jour, le vieux tailleur, n'ayant plus personne à la maison pour lui tenir compagnie, allait tous les dimanches au cabaret de Nicolas Bibi, dans la rue des Minimes, prendre sa chopine de vin, et quelquefois, voyant ma porte ouverte, il entrait au magasin et me serrait la main. J'étais le seul bourgeois de Sainte-Suzanne auquel il donna cette marque d'affection. « Vos affaires vont bien ?» me demandait-il. « Oui, Père Mauduit, oui. Tant mieux, cela me fait plaisir. » Puis il jetait un coup d'œil autour des rayons, examinant les paquets de ciseaux, de couteaux, de serpes et autres articles de coutellerie. Tout est luisant et bien entretenu, faisait-il. Et un jour, apercevant des fleurets, il voulut les voir. Ses yeux brillaient, il en prit 1, 2, 3, les faisant ployer sur le bout de son soulier avec une satisfaction singulière. « Celui-ci, fit-il, est bon, il est souple. La poignée est un peu trop courbée, mais on la redresserait facilement. La garde est aussi un peu trop petite. Oh, c'est égal, il m'irait, oh oui, il m'irait bien. Je voyais à l'expression de ses yeux, de ses traits ridés, qu'il était content. Mais si vous voulez une paire de fleurets, monsieur Mauduit, lui dis-je, non, 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 je m'occupe plus de ces choses-là, il y a bel âge. Qu'est-ce que je ferais d'une paire de fleurets, un pauvre vieux tailleur? Parlez-moi de l'aiguille, à la bonne heure, et j'ai plus le jarret. Et en même temps, il se mettait en garde, pliait les jarrets, se fendait. Il venait de prendre sa chopine chez Bibi et se sentait de bonne humeur. Ces détails m'ont frappé plus tard. Alors, c'est à peine si j'y fis attention. Enfin, pour revenir à la suite de mon histoire, depuis 4 mois, la mère du vieux tailleur dormait sous terre et les haies se couvraient de verdure, lorsque parut à Sainte-Suzanne un régiment de ligne dont la musique avait reçu l'autorisation de porter l'épée pour s'être distingué au sacre du roi. Ce régiment ultra-royaliste vint donc prendre garnison chez nous. Il s'y trouvait un grand nombre de jeunes gens distingués, sortant de la garde royale, et qui devaient y rentrer après avoir reçu de l'avancement. C'était en majeure partie des Bretons, des Vendéens, presque tous maîtres d'armes, et dont les parents avaient fait la guerre en Vendée contre la République. Et je ne sais comment on apprit tout à coup que le vieux tailleur Mauduit s'était appelé dans le temps du nom de La Pointe, et que ce La Pointe était une des premières lames de l'armée républicaine, enfin un être dangereux, chose dont personne ne s'était douté jusqu'alors à Sainte-Suzanne, puisque Mauduit ne sortait pour ainsi dire pas de sa rue, travailleur de son état et ne demandant que la paix. La seule chose qu'on put lui reprocher, c'était de ne célébrer ni les fêtes ni les dimanches en allant à l'église, et de manger de la viande les vendredis et les samedis quand il en avait. Quelques-uns pensèrent que les antécédents du vieux tailleur avaient été divulgués par le nouveau commandant la place, Clovis de Beaujarais, car ils étaient consignés depuis 20 ans sur le registre de la place, où Mauduit, dit La Pointe, de l'ex-32e demi-brigade, se trouvait porté d'une façon toute spéciale comme républicain et redoutable sous tous les rapports. Les anciens commandants avaient tenu ces notes secrètes tout en prévenant Mauduit que s'il touchait encore un fleuret, on l'enlèverait tout de suite. Mauduit avait répondu qu'il était revenu pour soutenir sa vieille mère, qui ne parlerait à personne de son ancienne réputation, dans la crainte d'exciter la jalousie des nouveaux maîtres d'armes et de s'attirer d'injustes provocations, et qui ne demandait qu'à rester en paix avec tout le monde pour gagner sa vie. Il avait tenu parole. Il était vieux, décrépit. Sa mère Jacqueline était morte l'hiver précédent, comme je vous l'ai dit, et lui-même, sans doute, n'attachait plus un grand prix à sa triste existence. Tous les jours, le nouveau régiment allait à l'exercice, musique en tête, et le soir, les cabarets se remplissaient de militaires fredonnant « Vive Henri IV » ou « Le troubadour partant pour la Terre Sainte ». Aucun soldat pourtant ne fréquentait le cabaret de Nicolas Bibi, car il se trouvait le rendez-vous des gens de métier, cordonniers, tailleurs, tisserands, etc. Et c'est aussi là que se rendait Mauduit, le dimanche, revêtu de sa grande capote à longue basque, soigneusement brossée, et la taille entre les épaules, et l'antique chapeau à chaque sur-oreille. La porte et les fenêtres de l'établissement restaient habituellement ouvertes, et du seuil de mon magasin, j'entendais tinter les verres et rire les bonnes gens lorsqu'une farce égayait la société. Or, un de ces dimanches, vers 2 heures de l'après-midi, allant et venant sur mon trottoir pour tuer le temps, je vis s'approcher, suivant la rue des Minimes, 5 ou 6 grenadiers, des maîtres d'armes et des prévôts, en grande tenue, épaulettes rouges et pantalons blancs, la taille serrée dans l'uniforme, les moustaches retroussées, causant entre eux avec animation. Ils firent halte au coin de la maison et j'entendis le chef de cette troupe, un grand brun, solide, large les épaules et l'air décidé, dire aux autres « Bon, allons, c'est entendu, le vieux bandit est là. Vous l'avez tous vu entrer. Oh, il n'emportera pas ses bottes en paradis, ce terrible Jacobin. Je veux les avoir. » Il riait en se dandinant, montrant ses dents blanches, et les camarades riaient aussi. « Eh !» fit l'un des autres, « s'entend parler, ben allons voir !» Et ils partirent ensemble vers le cabaret. Ils montèrent les trois marches en jetant d'un mouvement d'épaule le baudrier de l'épée sur les reins, comme des gens qui prennent un parti. Je savais à qui ces braves gens en voulaient, mais je me demandais qu'il s'agissait d'un duel, je m'en doutais, quelque chose commune en ce sens-là. Ma femme étant au magasin, l'idée me prit d'aller voir ce qui se passait là-bas. Et sans entrer, me tenant au pied du mur, je vis la petite salle encombrée de monde. On fumait, on buvait, on jouait aux cartes. Bibi servait. Sa femme, assise au comptoir, marquait les consommations sur l'ardoise. L'arrivée des grenadiers fit sensation. Quelques buveurs regardèrent. Le père Mauduit, assis au bout de la table, près de la fenêtre, me tournait le dos, son chapeau à claque au bâton de sa chaise. Il portait encore la queue, mais la sienne, ficelée d'un cordon noir, ressemblait à une queue de rat, tant elle était mince. Le brave homme, assis en face de sa chopine, causait avec M. Poirier, ancien portier consigne, en retraite depuis des années. Ils parlaient sans doute de leur campagne, car tous ces vieux soldats ne sortaient pas de là. « Voyons, faites place !» criaient les grenadiers. « Qu'est-ce que tout ce tas de savetiers ? Qu'est-ce que toute cette racaille ? Allons, dépêchons-nous !» Plusieurs se serraient sur leur banc, mais le grenadier n'entendait pas la chose de cette oreille. « Il nous faut cette table à nous seuls !» s'écria le grand brun en frappant sur la table, où se trouvaient le père Mauduit et son camarade Poirier avec d'autres. Nous aurons juste le temps de la place pour six, et qu'on se dépêche. J'étais indigné. Messieurs, dit Bibi, les premiers arrivés conservent leur place. Allez au cheval brun, allez où vous voudrez, mais ne venez jamais ici. Quoi, quoi ? S'écrièrent les maîtres d'armes. Qu'est-ce que raconte le Pékin ? Bibi, à ce ton goguenard, allait s'emporter, mais le père Mauduit, prenant sa chopine et son verre, lui dit « Bibi, voyons, ce sont des jeunes gens. Arrivez, Poirier, et vous autres, faisons place à ces messieurs. » Et il alla s'asseoir tranquillement à l'autre bout de la salle, dans un coin. « Hé !» s'écria l'un des prévôts, riant aux éclats. « Il est prudent, le maître de danse. Il cède sa place de bonne grâce. » Suivez les conseils de la sagesse et vous aiderez mieux. Mauduit comprit alors que c'était à lui que les grenadiers en voulaient. En ce moment, assis contre le mur du fond, je le voyais de face, son ami Poirier lui tournait le dos. Ce titre de maître de danse avait rendu le vieux soldat furieux. Mais il ne disait rien encore et, choquant son verre, à celui de l'ancien portier consigne, il dit simplement, au milieu du grand silence qui s'était établi, « À votre santé, Poirier, et allons-nous-en » Il vida son verre d'un trait, déposa quelques sous sur la table, et se dépêchait de sortir. Mais cela ne faisait pas l'affaire des provocateurs, qui tous ensemble poussèrent un éclat de rire. « À la bonne face !» Et l'un d'eux ajouta, « Vous ne connaissez pas la pointe, vous autres. Vous savez, le fameux la pointe de la 32e, le brave des braves qui donnait le frisson à toute l'armée des sans-culottes. Vous ne le connaissez pas. Il n'est pas ici ?» Et prenant par le bras un petit chaudronnier tout contrefait nommé Simon. « Est-ce que ce serait pas toi par hasard? Tu m'y ressembles. » Personne ne comprenait où ces gens voulaient en venir. Mais laissez-moi tranquille, répondait Simon en se dégageant. Je suis chaudronnier de mon état, je ne vous demande rien. Laissez ce pauvre homme tranquille, dit Mauduit en se rasseyant. Puisque c'est moi que vous en voulez, ne vexez pas les autres. Qu'avez-vous à me demander? Voilà. Bibi, apportez une chopine. Poirier, vous accepterez encore un verre. Oh, c'est donc toi la pointe, dit alors le grand brun. Oh, t'étais si bien caché depuis 20 ans qu'on ne te retrouvait plus. Il paraît qu'avec l'âge, la prudence arrive et... Que me voulez-vous? Interrompit brusquement le vieux tailleur, dont la figure était devenue couleur lie de vin. Voyons, ne faites pas les malins, parlez clairement. Eh bien, nous voulons tenter le pouls, dit l'un des prévôts en ricanant. Ah, vous voulez me tenter le pouls? Vous l'entendez? Fit-il en s'adressant à toute la salle. Ils veulent me tenter le pouls, et c'est pour cela qu'ils sont venus. Vous vous en souviendrez, la provocation ne vient pas de moi, mais je l'accepte. Et contre lequel d'entre nous? Demanda le grand maître d'armes. Contre tous, fit-il. Oui, vous m'avez tous insulté, je vous défie tous. Et puisque vous avez parlé de la 32e, c'est la 32e. Mais cela suffit, dit-il en retenant sa langue. Allons, Poirier, en route, on ne discute pas dans un cabaret comme des polissons. Je vous laisse avec ces messieurs. Vous êtes un de mes témoins, vous en chercherez un autre, les anciens ne manquent pas. Vous attendrez sur le terrain. Nous nous trouverons à la porte de Bâle. C'est bon, fit Poirier. Et tout cela fut dit au milieu du silence. Les maîtres d'armes et les prévôts avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Mauduit, se coiffant de son vieux chapeau, sortit sans même jeter un regard à ses provocateurs, les moustaches ébouriffées et l'air indigné. Il descendit les 3 marches du cabaret et se dirigea vers la rue en poussant de petits hoquets bizarres. Oh, ce n'était plus le vieux tailleur mélancolique. C'était la bête fauve qui se réveille après avoir longtemps dormi et dont les mâchoires claquent de faim et de soif. Bon, je sais ce que pensaient les grenadiers en se voyant si bien servis, mais ils descendirent sur la petite place des Acacias gravement, et moi, je me dépêchais de regagner mon magasin. Du seuil, je les vis s'entretenir devant le cabaret avec l'ancien portier consigne, puis chacun s'en alla de son côté. Ils avaient pris rendez-vous quelque part. Or, ce jour-là, voyant tout le monde à la campagne et dans les cabarets, et pensant que personne ne viendrait plus acheter après 4 heures, je dis à ma femme de s'habiller et que nous irions faire un tour dans notre jardin. Je fermai le magasin, elle se dépêcha d'aller mettre son chapeau, de se jeter un châle sur les épaules, et 10 minutes après, nous gagnions bien ras-dessous, la porte de Bâle, heureux d'aller respirer le bon air des champs et de voir les progrès de la végétation depuis toute une longue semaine. Le temps était très beau. Notre jardin n'était pas éloigné de la ville, sur la route de Bâle. Nous avions là une jolie gloriette treillissée, couverte de volubilis, de clématites et de vignes vierges, des allées bordées de fleurs et quelques beaux arbres, mirabelliers et pruniers, alors blancs comme neige, et que nous devions revoir bientôt courbés sous les fruits. Je ne dis rien à Joséphine de la provocation dont j'avais été témoin. Ces sortes d'affaires étaient alors assez fréquentes entre les anciens soldats de la République et de l'Empire et la jeune armée des Bourbons. De telles choses ne sont pas faites pour réjouir les femmes, et la mienne, fort délicate, aurait été tout émue d'entendre parler d'un duel semblable entre un vieux bonhomme tout décrépit et 6 grands gaillards dans la force de l'âge et de l'agilité acquises par une pratique journalière dans la salle d'armes. Je formais des vœux pour le père Mauduit, c'est tout ce que je pouvais faire, et je m'en remettais pour le surplus à la sagesse de l'Éternel, sans espérer pourtant beaucoup que le vieux tailleur pourrait sortir sain et sauf d'une si terrible rencontre. Vers 4h30 du soir, nous étions tranquillement à regarder nos œillets et nos tulipes. Le soleil dorait quelques légers nuages au haut des collines. Tout respirait le calme, la fraîcheur du printemps. Je venais de découvrir un nid d'oiseaux dans la haie de notre jardinet. Joséphine, ravie, le regardait en extase. Nous n'avions pas encore d'enfants, mais nous comprenions pourtant bien les cris de détresse de la pauvre mère, voltigeant de branche en branche autour de nous. Éloignons-nous, disait ma femme, ne prolongeons pas son épouvante. Et dans ce moment, comme nous nous redressions, j'entendis au loin un bruit de ferraille et un vague murmure qui tout d'abord fixa mon attention. Là-bas, derrière la petite allée des houx et de vergers qui séparait notre jardin des propriétés voisines, on se battait. Ma femme, elle, n'entendait rien. Elle rentra dans la gloriette. Je lui dis de m'attendre quelques instants, que j'avais des replants et des boutures à demander au jardinier. La forêt, dont le potager se trouvait plus loin, sur la route. Et poussé par une curiosité diabolique, j'enfilai la allée formée par de grandes haies aboutissant sur les prés de l'ancienne Tuilerie, d'où partait le cliquetis que j'avais entendu d'abord. À chaque pas, il devenait plus distinct, et quelle ne fut pas mon horreur, au moment où je me penchais sur la haie, de voir là un grand corps étendu sur le gazon, celui du maître d'armes brun, la bouche pleine de sang, les yeux tout entrouverts, son habit de grenadier dans l'herbe. Il était tombé le premier, et les combattants s'étaient retirés à quelques pas plus loin pour continuer. Personne ne veillait auprès du mort. Et comme je m'approchais derrière la haie, une exclamation se fit entendre. « Ah !» « Et le nœud !» fit la voix du père Mauduit, avec une sorte de ricanement. En effet, à travers le feuillage, j'aperçus, autour d'un corps étendu, plusieurs assistants inclinés. Ils regardaient. Un des grenadiers dit en se relevant, « Oh, il est touché comme l'autre, au-dessous de l'aisselle !» Mauduit, en bras de chemise, restait seul debout. Il attendait. Sa figure vineuse avait une expression de férocité joyeuse, et tout à coup il se prit à dire « Bon, allons-nous, compterons tout à l'heure. Il est mort, ça suffit. Passons à un autre. Allez, le meilleur d'entre vous, le plus fringant, le plus huppé. Allez, tenez, celui-là » fit-il en montrant le grenadier qu'il avait appelé maître de danse. Mais celui-là n'avait pas l'air de vouloir y mordre. Nous tirerons au sort, fit-il d'un accent bien autre qu'au cabaret de Bibi. C'est le plus simple. Hé, dit le vieux tailleur, pourquoi tant d'embarras? Vous m'avez bien choisi tout seul, assis que vous étiez. Eh bien, je vous choisis, moi. « Non, 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 nous tirerons au sort, dit le maître d'armes, c'est plus régulier. »« Oh, bon, eh bien, dépêchons-nous, je suis un peu chauffé, je tiens pas à m'enrhumer. » Il y avait dans toutes ces paroles un accent de mépris et d'ironie terrible. Ces deux témoins, le portier consigne Poirier et l'ancien sergent Perrault, deux vieux de la vieille, comme on disait alors, restaient impassibles. Les autres se réunirent et tirèrent au sort, et le hasard voulut que celui-là même, que le tailleur avait désigné, perdit. Il se déboutonna lentement, déjà pâle comme un mort. Du trèfle, lui dit un de ses camarades. Attention, t'as vu le coup? Oh, oh, fit le vieux maudit en ricanant. Nous n'avons pas que ces deux-là, nous en avons d'autres à la douzaine. Tous les matins, à la 32e, on en inventait deux ou trois avant d'aller à la messe. Et tombant en garde, y sommes-nous? S'écria-t-il. L'autre, sans répondre, se mit en garde, les fleurets s'engagèrent. Le tailleur me faisait face à 30 pas. J'étais penché dans la haie. Comme les fleurets se touchaient, il m'aperçut, un sourire effleura ses lèvres. Il était heureux de m'avoir pour témoin de ses exploits. Mais, entraîné par un sentiment d'horreur et de pitié invincible, je lui criai « Père Baudouis, ne le tuez pas. Il a une mère aussi, lui. Une mère qu'il aime, comme la vôtre vous aimait. Père Baudouis, au nom de la bonne mère Jacqueline. » Les fleurets papillotaient avec un cliquetis bizarre. La figure du vieux tailleur s'était renfrognée. Ses yeux brillaient comme deux étincelles derrière ses larges sourcils blancs. Ses mâchoires se serraient. J'avais peur. Et pourtant, deux fois déjà, ayant paré le coup de son adversaire, il avait pu lui percer la poitrine et ne l'avait pas voulu. À la fin, blessant son homme au bras, il dit d'un ton brusque « Eh bien, voilà ton affaire à toi, ça suffit. N'y en viens plus, ça te sert de leçon. » Sa figure s'était un peu adoucie. L'homme blessé s'en allait bien content. Un de ses témoins lui liait le bras avec un mouchoir. Le pauvre diable était pâle comme un mort, et pourtant, il paraissait heureux d'en être quitte et à si bon marché. Quant au père Baudouis, il était toujours là, attendant. « Eh bien, fit-il, est-ce que l'un de vous en veut encore ?»« Non, cela suffit, l'honneur est satisfait, » dit l'un des maîtres d'armes. « Vous croyez ?» répondit le tailleur avec un sourire ironique. « Ben, je pourrais bien vous répondre, moi, que ça ne suffit pas, que je ne sors pas de mes habitudes pour si peu de choses. » Je pourrais vous répondre que lorsqu'on se met 5 ou 6 pour insulter un vieillard, car je suis un vieillard, on devrait au moins soutenir son insolence jusqu'au bout. Mais allez, je vous tiens quitte. Souvenez-vous seulement de la 32e, et que ces vieux chicots valent encore toutes vos dents blanches. Ça mord dur. Les maîtres d'armes s'en allaient, suivis de leurs témoins, sans répondre. Leur indignation était grande, mais elle n'allait pourtant pas jusqu'à réclamer, jusqu'à protester et se remettre en garde contre le vieux tailleur dont ils s'étaient tant moqués. Les deux corps restaient là dans l'herbe à l'ombre de la haie et le blessé, appuyé sur l'épaule d'un de ses camarades, s'éloignait, faisant bonne contenance. Ils prirent la petite allée et traversèrent les glacis, allant sans doute à l'hôpital militaire pour prévenir d'envoyer une civière pour enlever les morts. Mauduit avait ramassé sa redingote dont il passait les manches d'un air indifférence. Il remit aussi sa cravate de crin qui se bouclait derrière à la mode des vieux soldats. Puis se coiffant de son chapeau à claque, il dit aux deux autres qui l'attendaient « Allez, en route, voilà une affaire réglée. » Comme il passait près de moi, je dis « Merci, Père Mauduit. » Et lui, se retournant à ma voix, me tendit la main par-dessus la haie en s'écriant « Oh, vous êtes encore là, Monsieur Antoine !» Ma foi, le troisième vous doit une fameuse chandelle. Sans vous, je l'embrochais comme un kaiserlik. Puis, traversant la haie, vous allez me rendre un petit service, dit-il. Vous avez été témoin de la provocation. Je vous ai vu dehors, à la fenêtre de Bibi. Oui, Mère Mauduit, oui. Eh bien, il faut que vous m'accompagniez chez le commandant de place et que vous témoigniez de la chose. Un bon bourgeois comme vous aura plus de crédit que nous autres, vous comprenez? C'est bon, cela suffit, lui répondis-je. Le temps de reconduire ma femme à la maison, je suis à vos ordres. Vous me trouverez sur la petite place. Il fit un signe de tête affirmatif et rejoignit ses témoins déjà au bout de l'allée sur les glacis. Moi, j'allais prendre ma femme au jardin. Une demi-heure après, le père Mauduit, ses témoins et moi, nous étions en route pour l'hôtel du gouverneur. Le sapeur de planton à la porte alla prévenir M. le commandant Clovis de Beaujarais que des bourgeois demandaient à lui parler. Et 2 minutes après, il vint nous dire de monter. Monsieur le commandant Clovis, en veston gris et calotte noire, des besicles comme des verres de montre à cheval sur son gros nez rouge, était assis dans son salon, sur son tabouret, en train de faire de la tapisserie. Il avait auprès de lui, dans un panier, des quantités de bobines et brodait des fleurs de lys avec une adresse merveilleuse. « Qu'est-ce que vous voulez ?» fit-il en nous jetant un coup d'œil, sans cesser de poursuivre son travail. Le père Mauduit, en quelques mots, lui conta l'affaire. Et Poirier, ayant voulu confirmer le dire de son camarade, il l'interrompit en disant « c'est bon, on vous connaît, vous. Vous êtes de la même bande, autant vous l'un que l'autre. » Laissez parler M. Flamel. Alors je lui racontai le passage des maîtres d'armes sur le trottoir devant mon magasin, la manière dont ils avaient combiné leurs provocations, leur entrée au cabaret de Bibi, enfin tout ce que j'avais vu, entendu jusqu'à la fin. Et lui, tout en continuant de broder, m'écoutait fort attentif. Vous pourriez attester tout cela devant la justice, dit-il. « Oh oui, monsieur le commandant. Alors, c'est bien. » Et s'adressant à Mauduit, « Vous avez de la chance que cet honnête bourgeois ait été témoin de l'affaire, car tous vos savetiers, vos gagne-petits, toute votre racaille de sans-culottes et de bonapartistes n'auraient servi de rien. Allez, puisque les deux maîtres d'armes se sont fait tuer comme des imbéciles, qu'on les enterre, c'est le plus court. » Et quant au blessé, je pense qu'il est à l'hôpital, qu'il y reste. Et qu'on ne parle plus de tout ça. Ces disputes m'ennuient. On n'a plus une minute à soi pour travailler tranquillement. Ça m'embête, fit-il en ouvrant sa grande bouche jusqu'aux oreilles. Mais oui, ça m'embête. Allez, je vous lâche pour cette fois, mais si j'apprends encore quelque chose, monsieur Mauduit, dit la pointe, à la moindre bouche qui vous piquera, vous aurez de mes nouvelles. » Là-dessus, saluant M. le commandant qui s'était remis à broder, nous sortîmes à la file. Et dans la rue des Cordiers, et déjà loin de la sentinelle qui se promenait de long en large devant l'hôtel du gouverneur, Poirier, furieux du dédain que M. Clovis de Beaujarais avait témoigné pour sa déposition, s'écria « Mauvais émigré !» Ça s'est battu 20 ans contre le pays, et ça insulte les patriotes. Personne ne lui répondit. Chacun en avait assez. On se dépêcha de regagner sa maison, bien heureux de voir l'affaire se terminer ainsi, sans poursuite du conseil de guerre ou d'ailleurs. Ces choses me sont revenues en détail, et pourtant, que d'événements nous en séparent. Charles X et les missions, Louis-Philippe et les guerres d'Afrique, la révolution de 1848 et les événements de juin, les chemins de fer, les lignes télégraphiques, Napoléon III et l'invasion, le déchirement du pays, la perte de l'Alsace et de la Lorraine, et que les figures sont changées. Quel rapport les bonapartistes d'aujourd'hui ont-ils avec ceux que nous avons vus? Ils leur ressemblent comme le neveu ressemblait à l'oncle. Ils vont à confesse, et les autres se seraient alignés tout de suite si on les avait appelés calotins. Oh, tout est changé, les noms seuls restent. Enfin, je continue mon histoire. À la fin de l'année 1826, un soir, j'étais à attendre quelques objets de quincaillerie, lorsqu'une petite fille, toute dégonillée, entra me dire que le père Mauduit demandait à me voir. C'était la fille de Voirin, le fossoyeur, demeurant dans la même rue que Mauduit. Aussitôt, laissant ma femme au magasin, je me rendis à la baraque du vieux tailleur pour savoir ce qu'il me voulait. La fenêtre de son réduit était ouverte comme autrefois. On chantait l'ABC 5 ou 6 maisons plus loin. Comme du temps de M. Berthomé, mort l'année précédente et remplacé par le nouvel instituteur M. Trichard. En entrant dans la petite chambre basse, parmi les vieilles guenilles pendues au mur, je regardais sans découvrir le pauvre homme, lorsque d'une voix sourde, brisée, il me dit « Ici, Monsieur Flamel, ici !» Alors je l'aperçus étendu sur son lit, dans l'ombre de l'escalier, tout jaune, tout défait, les yeux brillants de fièvre, la face baignée de sueur. J'allais lui donner la main. « Vous êtes malade, lui dis-je, et vous avez envoyé la petite fille de Voirin m'en prévenir. » « Oui, dit-il, j'en ai juste pour aller jusqu'au soir, ou jusqu'à demain au plus. » Je vais sans doute défiler cette nuit, et j'ai voulu vous voir. Est-ce que vous avez besoin d'un médecin? Oh, je n'ai pas besoin d'un médecin pour signer ma feuille de route. C'est une formalité inutile, je m'en irai bien sans cela. Voulez-vous un prêtre? Non! Alors, pourquoi m'avez-vous fait venir? Vous avez besoin d'argent pour des remèdes, des soulagements, une femme de garde, quoi? « Le besoin de rien. Je vous ai fait venir pour vous serrer la main et vous dire merci. »« Merci, mais pourquoi ?»« Pour m'avoir crié d'épargner le polisson qui m'avait insulté en me rappelant ma mère. C'est pour cela que je vous ai fait appeler. » Il me tendit la main. « Vous êtes un brave homme. Je vous aime bien. » Il était ému et moi aussi. « Allô, fit-il au bout d'un instant, c'est assez, portez-vous bien. » Et se retournant, il me donna congé. Je rentrai chez moi. 3 ou 4 heures après, une femme de la ruelle des Glaneurs nous dit que le père Mauduit était mort. Et le lendemain soir, apprenant qu'on allait l'enterrer, je mis mon chapeau et ma redingote pour assister à l'inhumation. Les cloches ne sonnaient pas. Dans la maisonnette, je ne trouvais que les 4 porteurs et quelques vieux de la vieille. Le cercueil était sur 2 chaises boiteuses. Ils le mirent sur le brancard et partirent. Je marchais derrière. Les voisins regardaient aux fenêtres. On se rendit directement au cimetière. Là, nous attendait le fossoyeur Voirin, près de la fosse, sous les saules pleureurs, dont les feuilles commençaient à tomber. Il nous attendait en fumant son bout de pipe. « Oh, vous voilà, dit-il, c'est beau. Il n'y a pas de déprofondis, pas de gens qui crient. Ça va tout seul cette fois. Et qu'est-ce qui a payé le cercueil ?»« Mais moi, père Voirin, « alors, vous paierez bien aussi ma fosse. Mais oui, soyez tranquille. Après ça, fit-il en se crachant dans les mains pour saisir les cordes, il y a bien de quoi courir les frais. Six vieux pantalons, un uniforme du temps de la République, le lit, la table et les chaises. J'ai vu ça. Allons, aidez-moi, vous autres. Vous y êtes? Oui. Tenez ferme, vous y voilà. Le cercueil était dans la fosse. Je pris la pelle et j'y jetai un peu de terre. Les autres regardaient, comme on regarde au fond de ce trou noir, et voir un, rallumant sa pipe, le nez en l'air, s'écria. Oh, vous donnez pas la peine, monsieur Flamel, je me charge de fermer le trou. Une pelletée de plus ou de moins, on n'y fait pas grand-chose. Il aspira deux ou trois bonnes bouffées pour bien allumer sa pipe, mit le couvercle dessus, et saisissant sa pelle, ben, « ça marche bien cette année, » s'écria-t-il. « On gagne sa vie. Tous les vieux descendent de la garde, l'un après l'autre. La semaine dernière, c'était le capitaine Ochenet, le capitaine Boral Bouquet. Aujourd'hui, c'est le terrible Lapointe de la 32e. Ben, si cela continue jusqu'à la fin de l'année, le nouveau cimetière sera plein, comme l'ancien. Faudra bientôt acheter le champ de M. Guine pour continuer. » Oh, ce pauvre monsieur Guy, il a bien attendu assez longtemps, au moins qu'il jouisse de la vente avant de mourir. Et la terre roulait, la fosse se comblait. Il y en a, dit l'un des porteurs, dans un arpent, il en entre. S'il en entre, je crois bien, des centaines et des centaines. Après ça, dit Boirin, c'est tout naturel. Dans 100 ans d'ici, nous tous qui vivons sur la terre, nous sommes ce que nous étions 100 ans avant de venir au monde. Je partis, laissant le vieux fossoyeur continuer ses réflexions et ses histoires au porteur, qui se reposait un peu, assis sur le brancard, avant de retourner en ville. Depuis, j'ai passé souvent par là, dans la petite allée des houx qui longe le cimetière et qui mène au village de Timory. Chaque fois, je me suis arrêté quelques secondes en face de la tombe sans croix et sans pierre du vieux tailleur. La fosse est dans la haie. C'est maintenant une des plus vieilles, couverte de gazon, et les fleurs qu'on sème à droite et à gauche sur d'autres tombes s'étendent de son côté. Le pauvre vieux en a sa part, mais personne en ville ne sait plus qui il est, excepté moi. Voirin étant allé rejoindre ceux qu'il avait enterrés. Ainsi vont les choses en ce monde. Mon Dieu, pourquoi tant s'inquiéter? À la fin du compte, chacun trouve sa place. Je me rappelle maintenant que le vieux tailleur disait qu'il n'y a pas de parade ni de tierce en quarte. Quand le moment est venu, il avait bien raison.